bonjour à tous. Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde d'actualité économique. Aujourd'hui, quel budget pour une Europe divisée ?
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Imaginez une bande de 27 amis qui décident de partir en vacances. Par miracle, le choix de la destination s'impose. Vient ensuite le moment où il faut parler finances, et là, les premières dissensions apparaissent. Personne n'a le même pouvoir d'achat ni les mêmes envies, et la semaine qui s'annonçait idyllique tourne au pugilat. C'est le scénario que redoutent les 27 pays membres réunis depuis hier en Conseil européen extraordinaire. Sauf que le budget communautaire est prévu, lui, pour 7 ans, et que l'un des amis les plus riches vient d'annuler sa participation aux vacances. Alors les 27 vont-ils réussir à se mettre d'accord sur un budget ambitieux ? Faut-il augmenter les contributions des États pour faire face aux défis écologiques et numériques ? Ou repenser l'ensemble du financement européen ? Voilà les questions qui vont nous occuper dans l'heure qui vient. À 14h45, Christian de Pertuis sera l'invité de la bibliothèque de l'Écho. Il nous parlera de son dernier ouvrage, Le tic-tac de l'horloge climatique, une course contre la montre pour le climat. Et pour parler du bras de fer européen autour du budget, trois invités. Bonjour Hubert Kempf.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'économie à l'ENS de Paris-Saclay et vous avez écrit un ouvrage sur les économies des unions monétaires. À vos côtés, Nicolas Jean-Bréon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, conseiller budgétaire à la Fondation Robert Schuman. Et enfin, Paul Mallier, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Un grand merci à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui.
L'Allemagne est venue avec la ferme volonté de trouver une solution. Si cela va aboutir, nous ne pouvons pas encore le dire. De notre côté, nous ne sommes pas encore satisfaits par l'état actuel des négociations. Car nous croyons que l'équilibre entre les contributeurs n'est pas tout à fait ajusté.
La négociation s'annonce compliquée. La position de l'Italie, c'est que nous voulons être ambitieux. L'Europe est confrontée à des grands défis auxquels nous ne pouvons pas faire face avec des petites réponses. Pour relancer l'emploi, la croissance, nous devons investir. Nous voulons des biens communs, une Europe plus verte, plus digitale, et pour tous ces défis, nous avons besoin aussi des dotations financières adéquates.
La position de la France sur ce budget consistera d'abord à se battre pour avoir une politique agricole commune au rendez-vous de nos ambitions. Car on ne peut pas parler de politique climatique et de politique en faveur de la biodiversité si nous ne transformons pas progressivement notre politique agricole commune. C'est indispensable pour notre souveraineté alimentaire. C'est aussi indispensable pour avoir une agriculture qui permette l'alimentation de qualité et la transition climatique que nous défendons.
Vous avez reconnu dans l'ordre Angela Merkel, puis le président du Conseil italien Paolo Conte et enfin Emmanuel Macron. Alors les négociations sur le budget s'annoncent compliquées et cela d'autant plus que l'Union européenne a perdu son deuxième contributeur net, le Royaume-Uni, Hubert Kempf.
Oui, tout à fait. Ça veut dire une perte de 60 milliards d'euros sur 7 ans. C'est donc quelque chose qui est conséquent et qui aura des implications importantes dans les négociations qui ont lieu en ce moment à Bruxelles, c'est sûr.
Alors, donc c'était Giuseppe Conte, le président du Conseil italien. Effectivement, le fait que le Royaume-Uni ne contribue plus à ce budget change la donne. Mais alors, pour bien comprendre, Nicolas Jean-Bréon, comment se déroule l'adoption d'un budget européen ? Quelles sont les étapes ?
Alors, s'il y a une étape juridique, et on est là dans le non-juridique, on est dans l'informel. L'étape juridique, on commence par une proposition de la Commission, puis une négociation entre les États, qui dure 2 ans, à peu près 1 an et demi. Puis, ça se boucle par une étape informelle, qui est en ce moment, qui est la réunion au sommet des chefs d'État qui arbitrent. On n'est plus dans la phase de négociation. La phase de négociation, c'est 2 ans. On est dans la phase d'arbitrage. Et c'est l'arbitrage par les chefs d'État. Puis, on arrive à un résultat qui va être proposé au Parlement européen. On a besoin de son approbation. L'approbation, c'est oui, non. On n'amende pas, le Parlement européen n'amende pas, il l'approuve. Et quand, après l'approbation du Parlement européen, le Conseil, c'est-à-dire les ministres, adoptent le CFP, le cadre financier pluriannuel, à l'unanimité.
C'est important cette notion d'unanimité, parce qu'évidemment, c'est là que le bât blesse et que ça complique considérablement les choses. Alors, pour compenser cette baisse du budget liée au Brexit, la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut augmenter la contribution des États ? Ça, c'est le point de vue qui est défendu, entre autres, par la France, l'Italie et l'Espagne, avec cette idée qu'il faut pouvoir répondre à ces défis, notamment écologiques et numériques, Paul Mallier.
Oui, alors effectivement, en parallèle à ces négociations entre les États membres, on a eu une présidence, donc la nouvelle présidence de la Commission européenne, qui s'est placée sous l'égide, quelque part, d'une commission volontariste sur les questions climatiques, notamment via la mobilisation d'investissements à la fois privés et publics. Donc c'est pas nécessairement qu'une question budgétaire ici de fonctionnement, mais il y a quand même, si vous voulez, cette promesse qui a été, en tout cas cet engagement qui a été pris, de vouloir vraiment influer sur le fonctionnement des institutions européennes, et notamment pour en faire le premier promoteur de la transition énergétique et écologique à cette échelle.
Et pour l'instant, la première proposition qui a été faite pour ce budget pluriannuel s'élève à 1135 milliards d'euros. Enfin, elle était à 1135 milliards d'euros, elle a été ramenée à 1095 milliards d'euros, ce qui correspond à 1,74% du revenu national brut. Alors il y a déjà eu un léger retour en arrière, on peut dire que la proposition qui se rapproche plus de la position finlandaise, qui est une position un petit peu de juste milieu, Hubert Kempf.
On peut le dire comme ça, mais on peut aussi voir cette proposition à l'aune du précédent contrat financier pluriannuel. Et celle-ci nous mettait à une part du RNB, du revenu national brut, légèrement supérieure à 1%. Donc la proposition de la Commission à laquelle vous faites allusion représente tout de même, d'une certaine façon, un accroissement relatif. Minime, mais non négligeable.
C'est très important cette question de l'accroissement et ce palier un petit peu psychologique des 1% du revenu national brut, parce que c'est vraiment sur ce point que bloque un certain nombre de pays. On les appelle les États frugaux, ce sont l'Autriche, le Danemark, les Pays-Bas et la Suède. Comment expliquer leur refus de dépasser une contribution à plus de 1% du revenu national brut ?
Alors c'est très facile. C'est une négociation budgétaire. C'est une négociation politique, évidemment, mais c'est une négociation budgétaire. Et dans une négociation budgétaire, on défend ses intérêts budgétaires. Et alors, depuis 15 ans, vous avez un groupe de pays qu'on appelle aujourd'hui les frugaux, qui s'est appelé à un moment les radins.
Ça dépend des points de vue.
Ça dépend des années. Et qui demande à ne pas augmenter le budget pour une raison très simple, c'est très facile à comprendre.
Ce sont des contributeurs nets.
Qui payent le plus, et ce sont eux qui payent le plus en net, qui ont des contributions nettes les plus importantes.
Mais ce ne sont pas les seuls, la France et l'Italie aussi. Et pourtant, la France et l'Italie acceptent une augmentation contribution.
Dans votre part, l'Italie, oui. La France est toujours réservée, prudente, et pour le dire autrement, hypocrite sur ces questions du budget, parce qu'elle défend une augmentation, mais en sous-main, elle est tout à fait contente que ça soit limité à 1%. C'est le cas. La France est le pays le plus ambigu sur la question. Mmh. Les autres sont clairs. L'Allemagne, on y reviendra après, l'Allemagne est parfaitement claire. Quand on paye en année, en net, 13 milliards d'euros, vous n'avez pas envie que ceux qui en bénéficient demandent que l'Allemagne paye plus. C'est tout ça.
En l'occurrence, l'Allemagne, venons-y, accepte de payer un petit peu plus que 1% de son revenu national brut. Alors, très à la marge, mais tout de même, est-ce qu'il n'y a pas là une amélioration, un nouveau pas, Paul Mallier ?
Certes, donc parmi les frugaux, c'est peut-être la moins frugale, puisqu'elle ne fait pas directement partie de ce club fermé des 1%, mais elle en défend quand même quelque part un petit peu aussi la vision dans ce cadre de négociations budgétaires. Après, l'Allemagne a aussi, je pense, comme intérêt de garder ce lien entre à la fois ces positions qui peuvent être assez irréconciliables et montrer une force un petit peu de négociation, mais un petit peu peut-être comme son modèle de fonctionnement politique, où le compromis, quelque part, est la résultante plutôt que le conflit direct. Un point, par contre, qui a été évoqué, et pour le coup, il y a aussi une forme d'hypocrisie de la part de ces pays frugaux, c'est la question du rabais sur le rabais britannique qui leur a été accordé en partie et pour lesquels il n'y a pas de volonté de clarification de leur part a priori.
Alors on va y venir après à cette question du rabais, mais d'abord Hubert Kempf.
Oui, je voudrais ajouter un complément à ce qui a été dit sur la frugalité. Il y a une frugalité budgétaire de la part de ces pays en matière de budget européen. Il ne faut pas oublier aussi qu'ils sont dans une culture budgétaire de la frugalité. C'est-à-dire que ce sont des pays qui, actuellement, pour des raisons bonnes ou mauvaises, privilégient l'équilibre budgétaire de leur propre budget. D'une certaine façon, ce ne sont pas des gens ou des pays qui ont ce qu'on appellerait une culture laxiste ou ouverte du déficit et de la dépense publique. Cela joue aussi considérablement dans la négociation.
Et vous parleriez, vous aussi, d'une hypocrisie française avec un affichage d'une où Emmanuel Macron accepterait une augmentation de la contribution de la France et en réalité, cela l'arrange si on reste autour de 1%.
Là, je ne peux pas répondre. Je fais confiance aux spécialistes de finances publiques. S'il le dit, il a certainement raison. Je pense que dans une négociation, personne n'arrive sans avoir quelques cartes glissées dans sa manche.
Parce que ça pose vraiment la question de l'égoïsme, entre guillemets. Est-ce qu'on peut parler d'égoïsme parce que ces pays sont des contributeurs nets,
Nicolas Jeanbrun ? On peut parler d'intérêt. L'intérêt budgétaire de l'Allemagne, c'est de limiter le budget. Alors, pourquoi l'Allemagne ne fait pas partie du groupe, là? Vous avez bien cité, l'Allemagne a toujours fait partie, a toujours été leader sur le sujet. Elle l'est encore. Mais là, elle se replie un petit peu pour une raison très simple, qui va nous amener d'ailleurs au Brexit. Mais cette raison, elle est liée à l'Angleterre. Jusqu'à présent, moi j'ai une très longue expérience de la négociation budgétaire, j'ai fait partie de l'équipe de négociation d'il y a 14 ans. Donc j'ai vu ce que c'était. L'Allemagne, qui décidait du budget finalement? Vous aviez 2 ans de négociations, 18 mois, des arbitrages, et à la fin l'arbitrage était donné par 2 pays, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Dès lors que le Royaume-Uni est parti, l'Allemagne perd son principal allié budgétaire.
Parce que le Royaume-Uni freinait beaucoup à l'égard de l'augmentation des contributions.
Ils étaient sur la même position. Mmh. Les Anglais et les Allemands ont toujours été sur la même position budgétaire, 1%. Et cette fois-ci, l'Allemagne est moins puissante, parce que c'est vrai que les autres, vous avez parfaitement raison de le rappeler, ce sont des États qui ont une culture de la frugalité, comme vous dites. Mais en réalité, c'est l'Allemagne qui décide. Quand on finance le budget à 20%, quand on a un solde net de moins 13 milliards, vous êtes le décideur. Mmh. Et donc là, maintenant, l'Allemagne est toute seule.
Paul Mallier, vous vouliez réagir?
Non, sur la considération, effectivement, cette culture, peut-être de l'orthodoxie, enfin, en tout cas de la bonne gestion des budgets, de ne pas faire de déficit, voilà, avoir une vision assez conservatrice de ces équilibres budgétaires. Parallèlement, si vous voulez, c'est clair, on a ces considérations comptables, quelque part. Et en même temps, ce budget, il se veut aussi l'intégration de nouvelles dimensions d'intervention, on va dire, de l'Union européenne, que ce soit sur la défense, ou renforcer aussi les questions migratoires, mais également sur les questions de transition écologique et énergétique. Et quelque part, tous ces champs d'intervention sont, en fait, par essence, producteurs de biens publics à l'échelle de la communauté européenne. Mmh. Donc, si vous voulez, la sécurité européenne, certes, il y a une contribution qui en est faite, mais les bénéfices non marchands ou non économiques qui sont pas valorisés par des valeurs monétaires, ceux-là ne sont pas pris en compte quelque part dans ce calcul.
Et c'est là qu'effectivement se situe tout le débat. Vous avez cité tout à l'heure cette question des rabais. Alors il faut rappeler que c'était une concession qui avait d'abord été accordée au Royaume-Uni avant d'être élargie à d'autres pays et qui bénéficie aux pays qui justement eux-mêmes ne profitent pas ou profitent moins de la politique agricole commune. Or, ce qui a pu s'entendre dans les couloirs de la Commission, c'est que, comme le Brexit avait eu lieu, normalement, ces rabais devraient être supprimés. Et là-dessus, les pays frugaux s'y opposent fermement, Nicolas Jeanbrun.
Oui, alors, l'Allemagne est embarrassée parce qu'elle n'a plus d'alliés, est embarrassée parce qu'elle n'a plus de rabais. Car le rabais britannique était très simple, c'était le différent, ça compensait la différence entre ce que l'Allemagne, ce que le Royaume-Uni donnait et ce qu'il recevait. Mais quatre autres pays avaient un rabais qui était calculé sur le rabais. Dès lors qu'on supprime la référence, vous n'avez plus cette économie qui représentait quand même 1,5 milliard pour l'Allemagne, qu'ils n'ont plus.
Bah, l'Autriche, par exemple, dit « si jamais je ne bénéficie plus de ces rabais, je vais devenir le deuxième plus gros contributeur net ». Et on peut comprendre que ça ne correspond peut-être pas à sa situation économique dans l'Union européenne.
On peut comprendre qu'ils ne veulent pas dépasser ce qu'ils ont actuellement. Voilà, le rabais, alors c'est mal compris. En général, en France, on critique beaucoup le rabais britannique, qui n'existe plus, mais enfin, rappelons quand même que ce rabais n'était pas fait pour équilibrer la contribution aux recettes. C'était pour ne pas trop déséquilibrer. C'était pour que ce déséquilibre ne soit pas, comme on dit, excessif. L'Angleterre, malgré le rabais, a toujours été un contributeur net. Mais il ne faut pas que ça soit excessif.
Et alors, est-ce que ces rabais devraient être supprimés aujourd'hui, comme le veut la France, Hubert Kempf? Qu'est-ce que vous en pensez?
Je crois qu'il n'y a pas que la France qui le souhaite. J'ai l'impression que, et la Commission, et le Parlement, en particulier le Parlement, dit bon ben voilà, maintenant, il est temps de stopper ces rabais. Il faut savoir que le Parlement européen, lui, est plutôt volontariste en matière de budget. Lui, il a plutôt une proposition
1,3% du revenu national brut.
On en parle. La proposition finlandaise était à 1,1, mais elle n'avait pas atteint, elle avait recueilli le plein accord du Parlement dans son entier. Donc le Parlement est divisé, mais il est plutôt effectivement dans sa majorité favorable à un effort budgétaire conséquent. Donc le rabais, oui, il est certainement en mauvaise posture politiquement.
Mais alors qu'est-ce qui est proposé en termes d'économie, si jamais il y a effectivement une diminution de ce budget à cause du départ du Royaume-Uni? Au cœur du débat, les fonds de cohésion qui visent à lutter contre les inégalités territoriales en Europe. Et là encore, pour les pays dits frugaux, il faudrait diminuer ces dépenses, il faudrait en finir avec les anciennes dépenses et investir dans la nouvelle économie.
Il faut faire les deux, en général. Non, l'idée, c'est d'avoir de nouvelles orientations, de nouvelles dépenses, sans pénaliser les anciennes. Mais le budget, comme je l'ai dit, c'est l'heure de vérité. Alors, monsieur, mon voisin, a dit tout à l'heure...
Paul Maillet
a dit tout à l'heure, donc faisant référence au bien public, une notion d'économiste, mais il y avait un gros programme sur la défense. Sur la défense. La Commission a parlé de que dans le prochain cadre financier pluriannuel, il y aurait un effort sur la sécurité et la défense. Un gros montant, près de 17 milliards.
Un effort d'autant plus important qu'il n'y a plus l'armée britannique dans l'Union européenne.
Oui, c'était trois programmes de 7 milliards chacun, grosso modo. C'était très intéressant pour tout le monde. Seulement quand on fait les calculs, quand on veut économiser, eh ben, on tape sur les nouveaux programmes, et en particulier sur la défense. Les 20 milliards sont passés à 6. C'est-à-dire que voilà, l'exemple typique, quand il faut arbitrer, eh ben, on arbitre, hélas, peut-être, en tout cas c'est comme ça, toujours, et là, sur les nouvelles dépenses, si on garde plutôt les anciennes.
Et ceux qui risquent aussi de faire les frais de ce départ du Royaume-Uni, ce sont les agriculteurs. Il y a cette idée aussi qu'il faudrait réduire l'enveloppe de la politique agricole commune. Or, la France est le premier producteur agricole européen. Alors évidemment, Paris est vent debout contre ce projet, Paul Maillet.
Oui, surtout qu'on parle ici d'une réduction substantielle. Je crois que c'était 7%.
50 milliards sur 7 ans.
50 milliards sur 7 ans et... La France, premier bénéficiaire de la PAC, est effectivement directement impactée par cette proposition.
Il y a aussi des inquiétudes du côté de l'Irlande, de l'Espagne, qui ont aussi une agriculture très développée.
Tout à fait. Par contre, ce qui se pose aussi comme question, c'est la politique de la PAC aussi est-elle adaptée en termes d'outils et de mécanismes d'intervention aux enjeux du XXIe siècle, et notamment quand on inscrit ça dans une stratégie de neutralité carbone d'ici 2050.
Mais justement, est-ce qu'il ne faudrait pas un budget PAC plus important parce que les ambitions environnementales devraient coûter plus cher aux agriculteurs, Nicolas Jeanbréon ?
Oui, alors la PAC, on défend la PAC aujourd'hui. Si la PAC a été très réduite dans la proposition initiale, elle remonte un peu, moins à cause de la France qu'à cause des pays de l'Est. C'est la Pologne qui est le principal aujourd'hui défenseur de la PAC. La Pologne sait que ses fonds de cohésion vont être un petit peu rabotés. En revanche, elle peut se rattraper sur la PAC. Elle a quand même 4,5 milliards de retour sur la PAC. Donc, c'est sur la PAC, j'étais très pessimiste, on va dire très pessimiste du point de vue français. Je pensais que ça allait, que la proposition de la Commission avec un gros abattement allait être acté par tout le monde. Eh bien non, ça remonte un petit peu. Et je pense que l'Allemagne, qui est le principal accusateur de la PAC, comme les quatre autres, devra mettre un peu d'eau dans son vin. Il est possible qu'on ait une toute petite majoration sur proposition initiale, c'est-à-dire une moindre diminution prévue.
On n'irait pas jusqu'aux 50 milliards voilà. Sur cet an, Hubert voilà. Kempf.
N'oublions pas à ce propos qu'il y a eu assez récemment, le trimestre dernier, à l'automne, en Allemagne, des manifestations d'agriculteurs allemands. En d'autres termes, les Allemands eux-mêmes ont un problème avec leur agriculture et je ne pense pas qu'ils sont prêts à sacrifier leurs agriculteurs pour sacrifier ou réduire la PAC. Donc, entre la proposition, la situation actuelle qui est à 39% du budget et la proposition qui est faite, qui avait été faite de 30%, je pense qu'il est vraisemblable que l'on aura un arbitrage qui pourrait être à vue de nez de l'ordre de moitié.
Et développer, diminuer l'enveloppe de la PAC, ce serait une mauvaise nouvelle sur le plan environnemental, une mauvaise piste, Paul Mallier ?
Alors actuellement, la PAC, elle repose sur trois piliers. Un premier qui est le soutien au prix agricole, un deuxième sur la dimension d'aménagement du territoire et une troisième sur les services écosystémiques. Vous allez dire que dans une dimension de transition énergétique, encore une fois, avec cet horizon de neutralité carbone, l'agriculture, en fait, c'est le dernier secteur en fait qui détermine finalement la réussite de cette transition énergétique. La décarbonation en tout cas, anticipé dans les autres, passe par une électrification massive, plus un passage aux énergies décarbonées. Mais en même temps, le reliquat d'émissions va être celui qui proviendra de l'agriculture, notamment les émissions de méthane ou dioxyde d'azote. Donc là, en fait, il y a peut-être une dimension aussi dans la PAC et de l'articuler avec cette stratégie climat, d'intégrer non pas directement les services écosystémiques, mais les services climatiques, en termes de séquestration du carbone, de développement de nouvelles friches qui ne vont pas nécessairement avoir des finalités économiques directes, mais qui, pour le coup, auront dans cette dimension toute son importance.
Alors c'est important effectivement de voir le rôle, le poids de cette politique agricole commune dans l'Union européenne, mais je voudrais revenir un instant sur ces fonds de cohésion qui pourraient être amputés de 44 milliards d'euros, des fonds de cohésion qui bénéficient surtout à l'est de l'Union européenne. Aujourd'hui, quels sont les pays qui se mobilisent le plus et qui s'opposent le plus à ces réductions? Ce sont, comme le disait Nicolas Jeanbréon, la Pologne, mais aussi la Hongrie, Hubert Kempf.
Également les pays du Sud, le Portugal et la Grèce, qui joueront leur partition et qui sont en train de la jouer très certainement actuellement à Bruxelles.
Il y a vraiment une volonté aujourd'hui de renverser cette politique de cohésion qui a si longtemps marqué le budget européen, Nicolas Jeanbréon ?
Renverser, non. Amender. Avec deux directions, d'abord trois directions. D'abord, limiter l'enveloppe générale. Quand on voit que la Pologne reçoit 10 milliards par an depuis 15 ans, c'est quand même énormissime. On peut concevoir qu'on limite les retours.
La Pologne est le premier bénéficiaire dans l'Union européenne.
Voilà. Deuxièmement, l'idée de la Commission, c'est très nouveau et c'est très perturbateur pour la Pologne, c'est de conditionner, c'est d'avoir une condition sur le respect de l'état de droit. C'est-à-dire que non seulement cette politique de cohésion, elle aide aux investissements pour le développement des régions des pays de l'Est, mais on en fait un outil, on en pourrait en faire un outil pour orienter les pays vers
le respect des valeurs démocratiques européennes.
Ça, c'est pas du tout acquis, parce que je vous rappelle que ça doit être décidé à l'unanimité et que la Pologne ne donnera jamais son accord là-dessus. Et troisièmement, et ça c'est la victoire grosso modo de l'Angleterre, les victoires posthumes, c'est l'idée que si on limite l'enveloppe générale, il faut réorienter, amender, en réservant les fonds de cohésion aux pays qui en ont vraiment besoin, c'est-à-dire les pays de l'Est. Et implicitement, en limitant les retours, les dépenses, dans les pays riches. Parce qu'aujourd'hui, ils n'en ont pas beaucoup, mais ils en ont un peu. Et en effet, les Anglais disaient, c'est absolument injustifié que l'Île-de-France, une des régions les plus riches d'Europe, reçoivent des centaines de millions d'euros par an.
On voit que beaucoup de débats sont sur la table. Également en débat les fonds qui bénéficient à des pays hors de l'Union européenne, comme les fonds de préadhésion, notamment. Ce sont des questionnements qui agitent en ce moment ce Conseil européen exceptionnel.
France Culture. Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Roquigny.
Nous sommes en compagnie d'Hubert Kempf, Nicolas Jean-Bréon et Paul Mallier pour parler des divisions autour du budget européen. Alors si les pays ne veulent pas contribuer davantage, il y a une autre piste. Peut-être l'Union européenne peut-elle augmenter ses recettes d'une autre façon. Et d'abord, il faudrait préciser, Nicolas Jean-Bréon, que les contributions des États ne sont pas le tout du budget européen. Il y a aussi ce qu'on appelle les ressources propres.
Alors, juridiquement, ce sont toutes des ressources propres. En pratique, vous avez une vraie ressource propre, la vraie ressource propre, qui sont les droits de douane, 12% du budget, et les fausses ressources propres, qui juridiquement s'appellent ressources propres, mais en réalité qui n'en sont pas, qui sont les versements des États. Et la France, par exemple, paye 21 milliards par an. Les Français, je vais peut-être leur apprendre, payent chaque année 360 euros par an. Chaque Français paye 360 euros à l'Union européenne. Issus des prélèvements sur nos impôts.
Alors donc il y a ces droits de douane, il y a la TVA, il y a les amendes aux entreprises. Mais alors aujourd'hui on peut se poser la question de comment augmenter ces recettes ou en générer de nouvelles. Ce qui est proposé, c'est de créer une nouvelle taxe sur les plastiques non recyclés, mais aussi de rediriger vers le budget communautaire une part des recettes des marchés européens du carbone. Ce sont des bonnes pistes pour vous, Hubert Kempf?
Tout est bon à prendre, hein. Un euro de plus, c'est un euro de plus. Ceci étant dit, on ne peut pas surestimer les montants qui seront tirés de cette, de ces nouvelles taxes, qui sont des taxes de poche, de fait. Je ne pense pas que ce soit vraiment là que se trouvent les pistes pour un budget européen ambitieux.
Paul Mallier.
Oui, je partage ce point de vue. Je pense pas que ce soit ici qu'il y ait effectivement les besoins nécessaires pour financer, en tout cas, ce budget qui pourront être trouvés. Mais par ailleurs, il y a aussi le danger de considérer que, justement, taxer ces activités d'émission de plastique, on veut taxer ici, on veut changer les comportements quelque part pour sortir du plastique, sortir du carbone. Et donc,
si on les change vraiment, les recettes diminuent.
Exactement. Et à terme, ça peut même avoir l'effet pervers que de conduire à ce que il n'y ait pas une reconnaissance de cet outil comme un outil pour arriver à un nouvel état. Une nouvelle situation de neutralité carbone et d'être enferré quelque part dans une dépendance ici.
Et les pays les plus défavorisés de l'Union européenne, qui recyclent moins, risquent de payer davantage. Alors ils font état d'une situation qui serait injuste. Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas Jean-Bréon ?
Non, je reviens à une chose. Ce sont des recettes de poche. Et les poches sont trouées. C'était un deal qui était le deal du Parlement européen pour le dernier cadre financier pluriannuel 2014-2020 qui avait dit « Je donne mon approbation à condition que vous réfléchissiez aux nouvelles ressources ». Donc le Conseil était coincé, la Commission était coincée et on fait des propositions. Ces trois propositions, c'est complètement anecdotique. Les déchets non recyclés sur les plastiques non recyclés, bon, la taxe sur l'impôt sur société, uniformisé n'est pas fait.
Alors ça, c'est ce qui pose problème. On n'en est pas là.
Et la troisième piste, c'était une taxation sur le carbone. Dans l'évaluation, je vais vous donner ce chiffre. Pour l'instant, c'est curieux, on n'a pas encore donné trop de chiffres, mais je vous en donne un quand même. La Commission a évalué ce rendement à 3 ou 4 milliards d'euros en se fondant sur un prix du carbone à 200 euros la tonne.
On en est loin.
Aujourd'hui, on est à 5. Donc vous voyez que c'est complètement...
On n'est plus haut que 5.
25-30.
Alors moi, dans mes chiffres, c'était il y a quelques mois, c'était 5.
Ça a énormément augmenté ces dernières années, tout de même.
Voilà. Enfin, on n'est pas du tout dans le...
Alors, il y a d'autres taxes qui sont également en discussion, vous l'avez dit, donc la taxe sur les sociétés, taxe européenne sur le numérique, sur les transitions financières ou encore sur les vols intra-européens. Mais ce qu'on constate, c'est que là, le consensus devrait être encore plus difficile à trouver, Paul Mallier.
Oui, puisque là, il faut que tout le monde... de la même manière, il faut qu'il y ait un consensus, même plus qu'un consensus... une approbation complète des États membres.
Mais sur ces différents sujets, il y a particulièrement des divisions.
Et avec cette hétérogénéité de situation, donc chacun ne se retrouve pas nécessairement dans les dispositifs évoqués. Et il va falloir effectivement trouver un moyen de mettre tout le monde d'accord et sans pénaliser l'un par rapport à l'autre.
Nicolas Jean-Bréon.
Oui, je rappelle un point juridique. On n'est pas dans le consensus, là. On est dans... L'unanimité. Le consensus, c'est l'unanimité sans le vote. L'unanimité, c'est l'unanimité. Premièrement, l'unanimité des États. Deuxièmement,
le consensus peut mener à l'unanimité.
Oui, mais c'est une marge, il y a une marge. Deuxièmement, en matière de ressources, il y a l'unanimité des États membres, plus la ratification par les parlements nationaux. Vous voyez que ça fait quand même un verrou supplémentaire. Donc on est très très loin d'avoir l'unanimité plus la ratification des parlements nationaux sur ces trois ressources.
Ce qui fait qu'il n'y a pas d'harmonisation fiscale au sein de l'Union européenne aujourd'hui. Hubert Kempf.
Donc je vais directement plonger dans les espaces vertigineux de l'utopie. Mais je pense qu'il est possible d'envisager d'autres formes de financement du budget européen. Et il est dommage que la Commission européenne ne s'en soit pas emparée. Il faut espérer qu'elle le fera bientôt, parce que c'est son rôle dans les institutions européennes que de faire des propositions.
Et lesquelles vous paraissent les plus intéressantes ?
Eh bien, la taxe sur les importations et le contenu en carbone des importations à l'entrée dans l'Union européenne.
Avec la pression de la Chine à prendre en considération.
Accessoirement des États-Unis, dont on peut douter qu'ils voient ça avec un œil très favorable.
Il faudrait que ce soit aussi en conformité avec l'Organisation mondiale du commerce.
Je vous ai dit que j'étais dans les
c'est
espaces
mon rôle de
l'utopie.
De lever quelques...
Mais en tout cas, je pense qu'il est temps d'en parler. Il est temps que l'opinion publique se saisisse de ces sujets. Et il est temps que les responsables politiques prennent acte de la nécessité de penser à nouveaux frais. Et puis il y en a une deuxième qui me semble aussi importante et qui est là de l'ordre du sacrilège par rapport littéralement au traité européen. C'est la possibilité que l'Union européenne, s'endette. C'est-à-dire qu'elle finance des dépenses d'infrastructures, pour le coup, d'investissement, parce que ça, c'est son rôle. Il ne s'agit pas de faire de la relance économique pour soutenir l'activité.
Mais ça lui donnerait une nouvelle marge de manœuvre.
On ne peut pas décemment penser que nous devons mettre en place un nouveau régime de croissance fondé sur... grosso modo, le respect de la nature, de la biodiversité et puis du réchauffement climatique. On peut pas dire que ce sont le défi d'un siècle en se cantonnant, lorsqu'il s'agit de voir comment le financer, à une pure fenêtre annuelle, même si elle est de 7 ans et avec une contrainte d'équilibre budgétaire.
On entend des voix qui disent qu'il faudrait repenser le financement de l'Union européenne. Je pense au président, l'ancien président de la commission des budgets du Parlement européen, Alain Lamassoure, qui propose de changer complètement les règles du jeu. Est-ce qu'il faut repenser le système et par exemple envisager effectivement une capacité d'endettement en Europe, Nicolas Jean-Bréon ?
Repenser le système, C'est un discours politique. En réalité, le système arrange bien tout le monde, car l'Union européenne se finance sur les États. Et il y a un équilibre automatique, ce qui fait que les États sont obligés de mettre au pot. En revanche, c'est vrai que les trois pistes sont intéressantes. Enfin, il y en a eu deux, mais il y a une troisième qui n'a pas été évoquée, qui me paraît encore plus intéressante. La taxation carbone et l'endettement, problème, il faut l'accord des Allemands. Or, l'équilibre budgétaire est un dogme intouchable. Donc, ça veut dire
même au niveau national, on voit que l'Allemagne a beaucoup de mal à renverser ce dogme.
Que la piste de l'endettement, elle est exclue. Taxe carbone, oui, mais l'Allemagne est le premier exportateur et ne veut pas que l'Union européenne fasse des signaux qui la montrent protectionniste, qui a un signal protectionniste. Donc l'Allemagne sera très réticente. En revanche, il y a une formule qui est plus intéressante, que vous connaissez probablement mieux que moi, qui est la formule du plan Juncker. C'est-à-dire c'est un plan d'investissement dans lequel l'Union européenne met une petite partie qui garantit les investissements. Il y a un effet de levier énorme qui met en réalité l'investissement, il est financé par les entreprises, par les banques. L'Union européenne n'est que le garde-fou. Et là, il y a une vraie ouverture de financement.
Vous dites que tout le monde y gagne, Nicolas Jean-Briand, mais aujourd'hui, il y a un projet qui a été lancé par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le fameux Green Deal européen. 25% du budget européen est censé aller à la lutte contre le changement climatique. Et si les pays n'arrivent pas à s'entendre, c'est tout le financement de ce projet qui pourrait s'écrouler, Paul Mallier.
Alors tout à fait, oui, puisque... Mon voisin parlait de l'effet de levier via la garantie des prêts et les activités de la Banque européenne d'investissement, donc qui permet justement de mobiliser des investissements qui sont par ailleurs largement insuffisants à l'échelle européenne. Hein, aujourd'hui, hein, la capacité d'investissement a fortement chuté après la crise. On a des pays, notamment l'Allemagne, où il y a des sous-investissements chroniques en infrastructures et il y a un réel besoin d'investissement qui se fait sentir sur des postes infrastructures routières, ponts, ouvrages de génie civil. Bref, il faudrait, c'est estimé, donc un document qui est sorti en 2018, mais en tout cas qui a été repris, Clean Planet for All, sur un besoin de 1100 milliards d'investissements par an pour arriver à cet objectif.
Sachant qu'on a un budget besoin, là de 1100 milliards
net,
sur 7 ans.
Le net, le besoin supplémentaire, le besoin additionnel, il est de 150-200 milliards, donc... En prenant en compte aussi l'effet de levier, donc là on aurait avec, admettons, 10 milliards, et en supposant un effet de levier à 15, on en aurait 150. Mais en termes de signal, hein, par contre, ce qui est important, c'est que si l'Union européenne n'est pas en capacité elle-même de s'entendre sur cette première pierre, à cet édifice qui est supposé avoir cet effet de levier, on voit mal comment les investissements seront à la hauteur des besoins.
Et est-ce que la Commission européenne ne joue pas sa crédibilité dans cette histoire, Hubert Kempf, avec ce Green Deal européen qui pourrait ne pas être à la hauteur des ambitions ?
D'une certaine façon, il faut saluer l'ambition proclamée, ou plutôt la proclamation de l'ambition. La présidente de la Commission est d'une certaine façon trop installée depuis trop peu de temps pour qu'on puisse faire un bilan, même d'étape, de son action. En revanche, donc il faut saluer cette annonce, je crois qu'elle est importante. Est-ce qu'elle arrivera à ses fins, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est bien le rôle de la Commission que de prendre des initiatives et d'une certaine façon... On a beaucoup parlé de renverser la table, en tout cas de la secouer un petit peu et de modifier un petit peu les donnes des problèmes.
Qu'est-ce qui se passera si les 27 ne parviennent pas à trouver un accord ? Est-ce qu'il faut s'attendre à un blocage politique comme ce qui s'est passé en 2013, Nicolas Jean-Briand ?
Alors, ils y arriveront. C'est-à-dire que on est là dans la dramaturgie, dans le jeu de théâtre, on est dans l'arbitrage et c'est toujours extrêmement difficile. Mais ça se règle toujours, c'est toujours comme ça, hein. Et ça se règle toujours par ce qu'on appelle, hélas, pardonnez-moi du mot, parce qu'il est vraiment très, très humiliant pour tout le monde, les logiques des cadeaux. C'est-à-dire que le président, en titre, reçoit tout le monde individuellement et dit, voilà, ça bloque à cause de toi, mais on va te donner 200 millions.
Rôle qui sera joué par Charles Michel, le président du Conseil européen.
Voilà, qui a reçu individuellement, voilà, pour l'instant il en est à 5 ou 6 et il va les recevoir tous. Et c'est terrible parce que ça se fait comme ça. C'est-à-dire que l'arbitrage, le consensus, se fait par des petits aménagements, mais chacun s'en sort à peu près gagnant. Donc moi je suis quand même assez confiant et je vais vous dire autre chose. C'est la négociation dans laquelle l'écart entre la proposition initiale de la Commission et la proposition d'arbitrage du président du Conseil est le plus faible. On est à 50 milliards. Après, ça me paraît beaucoup.
Finalement, ça ira peut-être même plus vite qu'en 2013, c'est ça que vous voulez dire ?
En 2013, on était à 90 milliards. En 2007, on était à 160 milliards. C'est-à-dire qu'il y avait un écart énorme. Là, on est, si je puis dire, à 50 milliards près, à la louche. On peut y arriver. Mmh. Donc, malgré tout, il y aura, je pense, un deal. Mais je suis sûr qu'il y aura un deal.
Mais vous l'avez dit, le Parlement peut accepter ou repousser ce budget sans possibilité de l'amender, on l'a bien noté. Est-ce que ce Parlement européen prendra le risque d'aller au bras de fer avec le Conseil, Paul Mallier ?
Je sais pas trop quoi vous dire sur ce point, n'étant pas non plus
parce qu'il a nécessairement cette, dans les arcanes aussi.
Il a cette possibilité-là. Alors après,
et ce qu'il souhaitait, c'était 1,3% de contribution par État.
Oui, mais bon, c'est son rôle aussi de porter une ambition, quelque part. Notamment quand on voit le positionnement et la structuration actuelle du Parlement européen, où on a beaucoup moins le rôle pivot et finalement incontournable du PPE, donc du Parti Populaire Européen, avec du coup la prise en compte en tout cas de nouvelles tendances politiques comme écologistes par exemple qui du coup dans les discussions voilà amène aussi on va dire à jouer quelque part ce rôle de vouloir porter cette ambition.
Ce serait l'occasion pour lui d'exister davantage, non, Hubert Kempf?
Oui, mais ce serait un jeu dangereux. Et je rejoins ce que vient de dire Nicolas Jean-Bréon sur le fait qu'il y aura un accord. D'ailleurs, que laisse prévoir le fait que personne n'est arrivé véritablement tout feu tout flamme à la table des négociations. Chacun a laissé entendre que
il mettrait de l'eau dans son vin à la fin.
Et il y a un deuxième argument qui joue en faveur d'un accord, qui est un accord qui est là encore dû à une considération proprement d'environnement politique, c'est que le Brexit a eu lieu. Et l'Union européenne ne peut pas se permettre, après le départ d'un de ses membres les plus importants, ce qui n'apparaît pas comme une marque de crédibilité très forte aux yeux des opinions publiques mondiales, elle ne peut pas se permettre une nouvelle crise sitôt.
Donc, afficher des divisions paraît effectivement compliqué quelques semaines après le Brexit, Nicolas Jean-Bréon, et rien que pour ça, il va y avoir peut-être plus de bonne volonté de la part des uns et des autres.
Oui, alors, chacun est dans son rôle. Le Parlement européen est dans son rôle quand il veut un budget très important. Et les États sont dans leur rôle quand ils pensent à leurs finances publiques. La dernière fois, la leçon des deux précédents. Cadre financier 2007-2013, le Parlement européen avait donné son approbation en majorant l'enveloppe de 864 milliards de 1 milliard. C'était grosso modo le pourboire. Et ça lui avait permis de donner son approbation. 2014-2020, pas un centime d'euro n'a été ajouté à l'accord. En revanche, le Parlement européen a eu donné son accord, moyennant des choses techniques qui sont intéressantes, la flexibilité entre les rubriques et l'engagement sur les ressources.
On voit qu'il y a toujours des négociations et des arrangements possibles, comme vous l'avez dit. On va continuer à suivre cela dans les prochains jours pour voir si un accord est trouvé. Un grand merci à tous les trois, Hubert Kempf, Nicolas Jean-Bréon et Paul Mallier, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Il est 14h44 sur France Culture et c'est l'heure de retrouver la bibliothèque de l'Écho. Aujourd'hui, justement, on s'attaque à la transition énergétique avec Christian de Pertuis, économiste, fondateur et titulaire de la chaire d'économie du climat à l'Université Paris-Dauphine. Il publie le tic-tac de l'horloge climatique sous titre « Une course contre la montre pour le climat » paru aux éditions de Beck. Alors, est-ce que les énergies renouvelables sont devenues rentables ? Il répond au micro de Marguerite Caton.
Pendant un siècle et demi, les sources renouvelables se sont heurtées sur le mur de la rentabilité et ont toujours été battues par les fossiles. Depuis une dizaine d'années, on est en train de changer complètement la hiérarchie des coûts de production. Et de plus en plus souvent, aussi bien le solaire photovoltaïque que l'éolien onshore et maintenant l'éolien offshore deviennent compétitifs, parfois même moins coûteux que les énergies fossiles. Et c'est le changement d'échelle de la production des panneaux photovoltaïques en Chine qui a accéléré la baisse du coût. À l'heure actuelle, l'énergie renouvelable dont le coût baisse le plus rapidement, en réalité, c'est l'éolien offshore. Hein, puisqu'il y avait des barrières à l'entrée, notamment dans le coût d'investissement pour aller planter des grands pylônes à 3-4 km de la Terre. Maintenant, ces coûts sont en train de très fortement diminuer. Et peut-être que la prochaine génération d'éoliennes offshore flottantes sera aussi un énorme vivier de production d'électricité renouvelable à bas coût.
Pour penser la sortie du pétrole, si on essaye de raisonner un peu par sources fossiles, il faut repenser la mobilité. Vous nous le rappelez dans votre ouvrage, sur 100 tonnes de pétrole produites dans le monde, près de 60 servent au transport. Est-ce que le moteur à combustion interne est véritablement voué à disparaître? Est-ce que la voiture électrique est prête à supplanter la voiture à combustion, Christian de Pertuis?
Alors, d'abord, je dirais qu'en matière de transport de voyageurs, le choix n'est pas uniquement à l'intérieur des modes d'usage de l'automobile. Hein, on peut se déplacer en faisant du vélo, on peut se déplacer en transport en commun. Donc, le choix est plus large. Si on considère uniquement le moteur à combustion interne, ma thèse, c'est que effectivement, c'est une question de temps. Depuis un siècle et demi, je rappelle que le moteur à combustion interne a été mis en place par l'ingénieur Diesel à la fin du 19e siècle. Pendant un siècle et demi, il n'a cessé de renforcer son poids dans les transports terrestres principalement, mais aussi maritimes. Je pense que on est à l'ébauche d'une grande révolution où ce sont d'autres systèmes que le moteur à combustion interne qui vont déplacer les personnes et les marchandises.
Concrètement, vous l'avez déjà dit, c'est le stockage de grandes quantités de courant sur le véhicule qui va permettre peut-être ce développement de la voiture électrique, mais aussi d'une innovation. Vous parlez de cette production directe du courant grâce à une pile à combustible embarquée utilisant de l'hydrogène et rejetant de l'eau. Alors, qu'est-ce que c'est que cette innovation? Où en est-on dans son déploiement?
Alors, pour l'instant, on est très peu sur de la mobilité, dans l'utilisation de la pile à combustible. Il y a deux problèmes majeurs. Le plus important, c'est qu'il faut produire l'hydrogène. L'hydrogène n'est pas présent à l'état naturel. Et pour produire de l'hydrogène, il faut craquer la molécule d'eau. La façon la moins coûteuse, encore aujourd'hui, c'est d'utiliser des fossiles. Donc, on n'est pas sur de l'hydrogène vert. La façon la plus intéressante demain sera d'utiliser des mécanismes d'hydrolyse pour utiliser des surplus d'énergie verte, notamment d'énergie renouvelable. Et là, on aura un potentiel beaucoup plus important de production d'hydrogène vert. Donc effectivement, l'hydrogène vert est potentiellement demain une solution très intéressante, surtout pour les transports à longue distance, surtout pour les transports de poids lourd, qui nécessitent une puissance très supérieure aux véhicules particuliers, probablement aussi pour les bateaux.
Deux blocages précis sont identifiés dans votre ouvrage en ce qui concerne la sortie du pétrole et du charbon. Pour le pétrole, vous dites qu'il faut faire sauter le mécanisme de la rente, ou plutôt des rentes, qui enferment les capitaux et les activités dans une poursuite infinie de l'extraction, c'est bien cela ?
Absolument. Vous savez, dans notre système économique, souvent on parle du problème de financement de l'investissement. Et moi je pense que lorsqu'on donne les bonnes incitations, le système capitaliste est capable de générer très rapidement de l'accumulation nouvelle de capital. En revanche, le désinvestissement est quelque chose que le capitalisme sait beaucoup moins bien faire. Et je crois que le financement le plus complexe dans les années qui viennent pour la transition énergétique, c'est le financement du désinvestissement depuis les sources fossiles. C'est vrai pour le pétrole. On voit bien qu'aujourd'hui, même si on voit que beaucoup de paramètres nous laissent penser que le pic pétrolier va être dépassé à cause de l'insuffisance de la demande et pas à cause de l'insuffisance de l'offre, il y a encore toute une économie qui se base sur la rente et qui fonctionne de la façon suivante. Lorsque le prix du pétrole est élevé, on voit bien que vous avez une incitation considérable pour les compagnies pétrolières à continuer d'investir. Et lorsque le prix du pétrole diminue, on pourrait penser que les compagnies pétrolières vont avoir des difficultés de financement, voire avoir des difficultés d'existence, qu'elles vont être sorties du marché. C'est là qu'on voit qu'il y a une deuxième composante de la rente,
une
qui est la rente différentielle. Et vous voyez que, par exemple, lorsque le prix du pétrole est encore à 30 dollars le baril, ce qui paraît très bas sur les marchés, les compagnies nationales, par exemple la compagnie d'Arabie Saoudite, fait encore énormément de bénéfices, car son coût marginal, c'est plutôt de l'ordre de 5 à 7 dollars le baril.
Il faut donc casser cette dynamique de la rente, vous le dites, pétrolière, en internalisant le coût des dommages climatiques associés à cette utilisation du pétrole. Ça, c'est une piste. Simplement, pour continuer par source d'énergie fossile, en ce qui concerne le charbon, j'aimerais que vous nous expliquiez comment on peut se passer du charbon pour produire de l'acier. Est-ce que c'est possible aujourd'hui ?
Vous ne prenez pas le plus simple. Alors, je rappelle qu'aujourd'hui, la première utilisation du charbon dans le monde, ce n'est pas l'acier, c'est l'électricité. Et là, on a vu qu'il y a des substituts.
Là, on sait faire parce qu'il n'est que source d'énergie et non pas apport à la...
Je rappelle que le charbon est une façon encore relativement peu coûteuse de produire de l'électricité dans un certain nombre de pays asiatiques et que c'est un problème.
Bien évidemment.
Une fois qu'on aura résolu ce... Mais pour moi, c'est une question de temps, là. Si vous voulez, on n'est pas assez rapide, mais la dynamique, elle est lancée, elle va se poursuivre. Sur l'acier, c'est une autre paire de manches. Il y a deux façons de produire de l'acier. Soit on produit de l'acier brut, soit on produit de l'acier recyclé. Lorsqu'on produit de l'acier recyclé, on sait utiliser des fours électriques à arc et on sait très fortement baisser les émissions associées à la production d'acier recyclé. Mais comme vous le savez, l'acier, c'est un produit qui vit longtemps. Donc, il faut attendre longtemps avant d'avoir des quantités
de déchets
à recycler. Donc, il faut aussi arriver à produire de l'acier brut sans émettre de CO2. Là, il y a deux voies qui sont testées. Aucune n'est aujourd'hui économiquement rentable. Et même avec un prix du CO2 qui serait de l'ordre de 40-50 euros la tonne de CO2, probablement ce ne serait pas encore rentable. La première solution, ça consiste à capter le CO2 à la sortie des hauts fourneaux et à le rediriger vers un puits souterrain où il est mis à l'abri. Ça, c'est une voie qui avait été expérimentée en Europe, notamment dans l'est de la France,
à Florange, mais jusqu'en 2012.
Ça n'a malheureusement pas été au bout du projet. Le projet a été interrompu parce que ni l'industriel qui s'appelle Arcelor ni les pouvoirs publics français n'ont accepté de financer le complément de la subvention qui était donnée par l'Union européenne. C'est tout à fait regrettable. L'autre voie qui est testée aujourd'hui est testée en Scandinavie par un consortium qui est d'un côté un producteur d'électricité qui, sauf erreur de ma part, doit être Vattenfall, et le sidérurgiste suédois dont j'ai oublié le nom.
Deux sidérurgistes du pays sont associés
donc,
au projet Hybrite.
L'objectif, c'est de trouver une voie différente pour ne pas utiliser le système classique de haut fourneau dans lequel les gaz de charbon sont utilisés comme réducteurs de minerais, et de directement produire de l'acier primaire avec de l'énergie électrique sans passer par le charbon. C'est encore à la phase de test expérimental. Si ces tests sont favorables et les premiers éléments d'information qu'on a, on devrait passer à un pilote industriel et peut-être, à la fin de la décennie, pouvoir s'engager dans des investissements en taille réelle. Donc on est très en retard encore sur les possibilités alternatives de produire de l'électricité sans charbon, mais il y a aussi une voie d'espoir pour l'acier et c'est heureux.
C'est heureux, d'autant qu'une tonne sur deux de l'acier, vous le mentionnez, sert à la construction dans le monde.
Bien sûr. Voilà.
Et là, il y a une autre voie possible, c'est peut-être celle de changer les usages de l'acier et de substituer à l'acier le bois. Vous dites qu'on arrive à faire des bâtiments hauts et résistants aux incendies aujourd'hui.
Oui, absolument. C'est testé notamment dans plusieurs pays scandinaves, notamment en Suède et en Norvège. Je ne crois pas que on puisse préconiser la substitution de l'acier par du bois dans un grand schéma de développement dans les pays au sud du Sahara, si vous voulez. Ça reste encore quelque chose de secondaire, mais il y a des voies. Produire de l'acier sans émettre de CO2, c'est une voie royale pour concilier l'accès au développement économique avec des stratégies bas carbone.
Comment on organise cette réduction de la consommation des sociétés occidentales ? Est-ce qu'un prix élevé du carbone avec des mesures redistributives, c'est ça l'équilibre qu'il faut trouver?
C'est un levier très important, ce n'est pas le seul. Vous voyez bien que si on veut passer d'un modèle de l'empilement dans lequel on rajoute les sources d'énergie les unes sur les autres à un modèle de désinvestissement, le montant de la consommation énergétique est très important. Nous avons dans les pays développés des niveaux de consommation énergétique qui sont très élevés, voire exorbitants dans certains pays. Il faut donc pratiquer la sobriété énergétique. La sobriété énergétique, attention, c'est pas équivalent à l'efficacité énergétique.
Bien sûr.
Lorsque vous avez de l'efficacité énergétique, vous allez produire plus efficacement une certaine quantité de services énergétiques. La sobriété énergétique, ça va consister à réduire notre demande de services énergétiques finaux. Je donne un exemple pour que ce soit bien clair. Si vous avez des gains d'efficacité énergétique dans le transport aérien, le prix du ticket d'avion va baisser et vous pourrez faire plus de kilomètres avec le même montant. Donc, vous allez être incité à surconsommer l'avion.
C'est ce qu'on appelle l'effet rebond.
Voilà, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. La sobriété énergétique, ça va consister à volontairement, ou parce que le système de tarification vous y incite, limiter votre usage de l'avion, parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative. Lorsqu'on prend l'avion, on émet du CO2.
Et le prix du carbone est un moyen d'inciter à la sobriété énergétique.
Le prix du carbone est vraiment, je crois, l'outil le plus approprié pour une raison très simple. Une grande partie des politiques climatiques et des politiques environnementales consiste souvent à subventionner les émetteurs ou les pollueurs, et on les subventionne pour les aider à se transformer. Et donc ces subventions vont elles-mêmes rajouter aux incitations à consommer plus d'énergie. À partir du moment où vous appliquez le principe dit du pollueur-payeur, à savoir que c'est pour le climat les émetteurs de CO2 qui vont payer les coûts associés à l'usage des CO2, eh bien vous avez un effet strictement inverse puisque vous renchérissez l'usage des énergies fossiles et vous n'avez pas d'effet rebond puisque vous augmentez le prix des énergies fossiles et vous ne faites baisser aucun autre prix de l'énergie.
Et est-ce que ça demande une théorie critique de la croissance ?
Oui. La théorie critique de la croissance, elle est dès le démarrage dans l'économie politique. Hein. Au XIXe siècle, vous avez un grand débat entre, d'un côté, Jevons, Ricardo, qui voit une décroissance subie, et John Stuart Mill, qui, lui, prône un état, non pas une décroissance, mais un état stationnaire désirable. Et je crois qu'aujourd'hui, en réalité, pour les pays développés, les débats vont de plus en plus être entre les tenants d'une décroissance subie, hein, qui vous disent ben, « on n'aura pas le choix », c'est un petit peu la vision collapsionniste, et puis des raisonnements plus positifs qui vont montrer que on ne peut pas uniquement faire une décroissance sectorielle en sortant les énergies fossiles du système et en continuant l'hyperconsommation, l'hyperindividualisme. Et donc ceci requiert d'aller vers des sociétés où on a moins d'hyperconsommation, moins d'individualisme et plus de solidarité. C'est un petit peu le slogan « moins de bien, plus de liens ».
Merci beaucoup Christian de Pertuis. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le tic-tac de l'horloge climatique.
Merci à vous.
Take a think, feel low, take your time. Take a ticket, take the train to the end of the line. See where you can go, spend it, it's plastic, no do or die. Better flip it, think about it, and do just fine. Well, these things will come and go.
On se quitte avec le nouveau morceau de King Cruel, Alone Omens 3. Cette émission a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria-Brown, Aliette Ovine et Alain de Raucourt, à la réalisation Émilie Valla, à la technique aujourd'hui Ludovic Auger.
See it land, forget its flight. Draw a line in the sand between your thighs. Just to see which way you go. See got this, you're the lead, through your own. Battle for it, consume it, then let it go.
La semaine prochaine, direction la Chine, bouleversée par l'épidémie de coronavirus. L'économie chinoise en 4 épisodes, c'est à écouter à partir de lundi. En attendant, vous pouvez écouter, réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast, et nous retrouver sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho. Excellent week-end et à lundi.